On parlait tout à l'heure des gens de la CAQ qui veulent prendre des vacances l'été quand ça brasse partout sur la planète. Donald Trump nous envoie des nouveaux tarifs, puis il faut développer cette économie canadienne-là et surtout, il faut diversifier notre économie avec l'Europe. Fait que pendant que Mark Carney est partout, ben François Legault, on le voit plus, puis Geneviève Guilbeault décide avant de ses vacances de congédier Éric Ducharme. Mais il y en a d'autres aussi qu'on a parlé cette semaine, qu'on s'est dit, voyons, c'est-tu des paresseux, eux autres, Éric Duhaime puis Alex Boissonneau, ils se plaignent qu'il y a des élections en plein été. Ben, veux juste aller faire campagne si vous voulez être député. On sait de ça, nous autres, Jacinthe.
Ben, pas tant de la paresse que de savoir qu'il pourrait pas compter sur une aussi grosse équipe d'appui. Ouais, c'est donc, ça. Mauvais joueur.
Exactement. Ouais. Alors, Alex Boissonneau était de passage dans Marceau le midi. Hier, c'était Éric Duhaime qui était de passage mardi, parce qu'on a annoncé officiellement mardi que les élections allaient se tenir le 11 août. De cette année, donc de cet été, dans Arthabasca. Et Mathias nous a fait un excellent résumé en quelques extraits. J'imagine que le premier extrait, on a sorti le fait que Alex Boissonneau ou Éric Duhaime parlent des élections en été?
Oui, bien justement, là, on en a parlé. Est-ce que c'est une question de lâcheté? Pourquoi on est déçu? Alex Boissonneau, il réagit un peu sur sa déception des élections estivales.
Excellent.
Non, honnêtement, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Parce que je suis content de savoir que ça va se passer, là, qu'on aura une représentation. C'est le plus important, là, qu'on soit représenté à l'Assemblée nationale. Nous, on demande au Parti québécois depuis longtemps. Là, ça fait 4 mois qu'on n'est pas représenté. On avait même présenté une motion pour demander ce qu'est la tenue de cette élection partielle-là le plus rapidement possible. Donc, on est content que ça se fasse. On est content de savoir où on s'en va. Mais on peut pas s'empêcher de déplorer quand même le fait qu'on déclenche ça à peu près au pire moment, là, pour favoriser la participation à l'élection. Une élection partielle, déjà, il y a un défi.
Au pire moment. Ouais, les gens, les tu, je comprends là, qu'on veut des nouvelles un peu moins lourdes, puis qu'on veut relaxer un petit peu plus. Mais en même temps, crime, les gens sont dehors. Allez à leur rencontre, puis les gens vont les voter.
C'est au pire moment pour leurs équipes. Pour avoir du soutien de bénévoles, pour avoir du soutien des cabinets, pour avoir du soutien du personnel politique, du parti politique et pour avoir du soutien des élus. C'est le pire moment pour lui puis pour le Parti québécois. C'est pas le pire moment pour les électeurs, là.
Mais non.
Dans la vraie vie, là, du vrai monde, là, on n'est pas en congé tout le mois de juillet puis tout le mois d'août.
Non!
Puis t'es là. Y a-tu vraiment un bon moment? On en a parlé. Élection canadienne. Après ça, on avait une fin de session parlementaire qui brassait pas mal. On s'en va en élection municipale à l'automne. Y a-tu vraiment un bon moment au final? Je veux dire, non. C'est juste des mauvais moments de toute façon.
Exactement. Donc, ces gens-là bien, doivent accepter la décision du premier ministre. Et moi, je le dis, la décision du premier ministre fait plein de sens parce que l'élection fédérale s'est terminée le 28 avril. L'élection municipale, les campagnes vont commencer en septembre. Alors, la fenêtre d'opportunité était très courte et je suis très d'accord avec lui. Alex Boissonneau, Fidel Castro, j'avais pas trop entendu parler de ça. C'est quoi cette histoire-là?
Oui, en gros, on sait le passé d'Alex Boissonneau fait énormément de bruit. Il y avait eu une publication faite sur Facebook par Alex Boissonneau en 2016 lorsque Fidel Castro était mort. Le candidat du PQ réagissait en écrivant « Un géant est parti, au revoir, commandant ». Et je cite, c'est vraiment ça qu'il a écrit, cette publication-là. C'est fait en 2016, lorsque Yannick Marceau l'a questionné là-dessus. Voici son explication.
Ben, écoutez, d'abord, je trouve ça cocasse, c'est qu'on parle de Fidel Castro et tout ça, parce qu'il y a des gens qui spinent des trucs qui, je veux dire, gentiment, là, sont un peu n'importe quoi, à mon avis, à ce niveau-là. Là. Fidel Castro, c'est du grand n'importe quoi.
Est-ce que vous l'aviez écrit à sa mort? Ouais.
Mais attendez, allez voir ce que François Hollande écrit. Allez voir ce que... J'ai écrit ça, j'étais au bureau. Écoutez, je couvrais la politique au Parlement. Ouais. Un employeur qui est frileux sur ces questions-là, c'est Radio-Canada. Mon voisin de bureau, c'est Sébastien Bovet. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens peuvent facilement vous mettre dans des petites cases quand on parle de politique.
Hey, attendez, j'ai vanté l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, mais je suis au bureau. Fait que ça compte pas. Je suis au bureau. J'ai écrit sur mon Facebook « Vive Poutine, attaque l'Ukraine, va battre ces nazis-là ». Mais je suis au bureau, ça compte pas.
C'est incroyable. Ça, là, c'est la pire défense qu'on vient d'entendre, là.
Ben, ça ressemble à... Je l'ai jamais faite, sauf une fois au chalet.
Ben, c'est toléré par mon voisin de bureau, c'est accepté par mon employeur, donc c'était légitime que je dise ça. Ouais. Ben, t'as quand même... saluer un chef communiste.
Ouais, c'est ça.
Et tu l'as qualifié Caporal. Dans des termes, positifs.
Ouais. Et quand on connaît le passé d'Alex Boissonneau en plus, avec l'arrestation militante en 2001, sommet des Amériques. Alors là, j'ai hâte d'entendre le prochain extrait parce qu'Alex Boissonneau nous a dit qu'il était de centre droit, mais là, 2001, Fidel Castro, 2016. On écoute voir qu'est-ce qu'il a dit à Yannick Marceau.
Ouais. Puis par rapport à la gauche et à la droite en Occident, il y a une redéfinition de ce qu'est la gauche, de ce qu'est la droite. Il y a eu un déplacement aussi de ce qu'on appelle l'horizon politique, là, puis c'est correct, le spectre politique. Là, il y a personne qui a de monopole la droite puis de la gauche. Il y a des éléments dans ma pensée puis mon vécu politique qui me marquent à gauche. Je dirais pas le contraire. Moi, je crois en une certaine redistribution de la richesse. Je crois en un système de santé universel. Mais il y a d'autres éléments, à un moment donné, où on chemine dans la vie. Alors, moi, j'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai un emploi, j'ai été 18 ans à Radio-Canada. J'ai réfléchi à certaines choses, puis je l'ai vu différemment dans ce que j'ai comme perspective là aussi en vieillissant. C'est normal, on change. Donc, quand on pense, par exemple, à la taille de l'État, l'État a explosé au Québec, 45 000 fonctionnaires de plus depuis que la CAQ est au pouvoir. C'est inacceptable.
Moi, je suis de centre-droit, parce que je me considère de droite économique, mais je vais toujours avoir un petit côté socialiste, parce que j'ai travaillé dans le communautaire. T'as un côté de prendre soin des personnes vulnérables, de prendre soin des gens qui ont des problématiques de santé mentale, de travailler fort, d'investir en itinérance. Fait que j'ai ce petit côté-là, fait que c'est pour ça que je me mets de centre-droit. Mais Jacinthe, Mathias, est-ce que Alex Boissonneau vous convainc après 2001, après 2016 de Fidel Castro et avec cet extrait-là, qu'il est de centre-droit?
Hey, ben, je veux bien croire que 2001, c'était une erreur de jeunesse. Okay? On peut lui donner erreur de jeunesse. Il peut maturer avec le temps. Mais 2016, ça fait 9 ans. Là. On parle pas de... C'était pas un flow à cette époque-là. Là. C'était déjà un adulte de saluer Fidel Castro. Tu te considères de centre-droit, Jeff? Je pense que je suis sensiblement là aussi. Est-ce que tu aurais salué la mort de Fidel Castro, Jeff?
Jamais,
je te pose la question.
Jamais dans 100 ans. Et Jacinthe, toi là, qui es en politique depuis longtemps, là, qui fait le métier de chroniqueuse politique, un Alex Boissonneau en 2016 qui couvre les travaux de l'Assemblée nationale et qui salue Fidel Castro comme un caporal et qui travaille pour notre télévision d'État. Wesh!
Non, c'est vraiment, vraiment scandaleux ce qu'il a dit et toute personne politisée, alerte, est scandalisé d'entendre ces propos-là. Là, ça ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas eu un déplacement du spectre gauche-droite en Occident comme il le prétend là, dès le départ. Là. Ce à quoi il fait référence, c'est peut-être la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton où, ce moment, c'est peut-être mieux vu de dire qu'on est centre-droit ou alors que il y a quelques années encore, d'être de centre-droit, de s'afficher comme centre-droit, c'était socialement pas acceptable. Et là, c'est un peu plus socialement acceptable.
Ben, t'as raison, ça s'est déplacé. Moi, je prends mon exemple. Moi, quand je disais « Hey, je veux le libre commerce
ouais. »,
fait que je me positionnais de centre-droit. Là, j'avais des amis qui sont plus à gauche qui disaient « Mais mon Dieu, t'es à droite. »
C'est ça.
Mais je suis à gauche, je le répète, je suis à gauche pour des mouvements sociaux, ouais. Prendre soin des gens plus défavorisés, l'itinérance. C'est pour ça que je me considère centre-droit. Et là, maintenant, quand je le dis, ben, le monde dit « Ben oui, t'es de centre-droit comme moi. »
Ben oui.
Mais Alex Boissonneau n'est pas de centre-droit.
Non, tu peux pas saluer et dire au revoir, commandant, quand Fidel Castro décède en 2016 et dire quelques années plus tard, ah ben j'ai toujours été de centre-droit. Et il n'y a pas eu un déplacement de l'échiquier politique, il y a eu un déplacement de l'acceptabilité sociale. Écoute, tu peux pas dire à la fois au revoir, commandant, un géant est parti,
ouais.
Fidel Castro, ce chef communiste, et en même temps te revendiquer du mouvement de John Stuart Mill, Adam Smith, Frédéric Bastiat, Friedrich Hayek, Friedman, ça, tu peux pas t'inscrire dans la lignée du libéralisme économique et en même temps saluer le départ d'un communiste.
Et d'ailleurs, Yannick Marceau ne croyait pas non plus.
Alex Boissonneau, tu parlais d'Éric Duhaime parce que Fred nous écrit par texto, je trouve ça très intéressant. En effet, Boissonneau, c'est pas très convaincant, mais Duhaime n'est pas plus. Donc, qu'est-ce que Boissonneau a à dire sur Éric Duhaime?
Oui, bien justement, quand Yannick ne croyait pas puis qu'il a émis un doute, voici la réponse du candidat péquiste.
Curiosité, est-ce que vous dites la même chose avec Duhaime? Parce que souvenez-vous, François Legault, c'était aussi de baisser les taxes puis de baisser les impôts. Là. Il a fait sa campagne là-dessus sur le fait de réduire la taille de l'État. Moi, je trouve que c'est des thèmes qui ressemblent beaucoup à un certain adversaire dans Tabasco.
Éric Duhaime, on l'écoutait à la radio, il y avait ce même discours qu'il a là aujourd'hui.
Bien, ce même discours, je pense qu'il y a des propos Éric Duhaime qui a tenu à la radio qui préférait que soit oublié aujourd'hui. Puis je veux pas commencer à entrer à fouiller là, les boulamites, mais c'est juste ce que je veux dire, c'est que oui, à un moment donné, la perspective évolue. Moi, ce que je peux dire, c'est que les gens peuvent avoir confiance en moi parce que je me suis présenté dans cette élection-là, puis je le dis humblement, pour les bonnes raisons. Moi, je me suis présenté, je me présente dans Tabasco l'érable, pas parce que je me suis découvert au détour d'une partielle un amour pour la région. Là. Moi, c'est mon coin, c'est mon monde, donc j'ai une raison de servir ces gens-là parce que j'ai l'enracinement qui démontre que je suis là pour les bonnes raisons. Je ne dis pas qu'Éric Duhaime n'est pas là pour des bonnes raisons, en sens que lui, il y a une autre raison de passer par Arthabasca, mais il faut quand même...
Et avant de réagir, voici ce que Éric Duhaime avait à dire sur Alex Boissonneau. On écoute M. Duhaime.
Comment entre vous deux?
Ben, moi, j'ai rien contre personne. Là. Moi, je savais pas que de son passé criminel, je l'ai appris comme vous dans les médias. J'ai posé des questions que les gens me posent. Je pense que c'est légitime. Les gens ont le droit de savoir. Est-ce que c'était oui ou non une erreur de jeunesse? Comment ça se fait que 15 ans plus tard, il louangeait encore Fidel Castro? Il y a plusieurs questions qu'on a posées qui, malheureusement, n'ont pas eu de réponse. Mais j'imagine que la campagne électorale va nous permettre d'éclaircir ce genre d'affaires-là. Mais moi, j'ai rien personnellement contre l'individu. Moi, je le connaissais comme un animateur à Québec. Je connaissais pas son passé. J'avais été même invité régulièrement dans son émission. J'ai rien contre la personne comme telle. Maintenant, ce qu'il a fait, mais là, ça, j'en ai beaucoup contre, là. Puis ses accointances avec l'extrême gauche, c'est sûr. Puis les anticapitalistes, moi, ça me préoccupe beaucoup. Mais ça reste au niveau des idées, là, il n'y a rien de personnel.
Jean-Saint-Eve, c'est deux candidats de l'extérieur, de toute façon. T'es Alex Boissonneau, il n'est plus dans le comté d'Arthabasca depuis qu'il est allé à l'université. Là.
Exactement.
Donc, t'es de dire qu'Éric Duhaime vient de l'extérieur, c'est deux candidats de l'externe.
Bien, tu peux pas dire, ma préparation pour préparer un coup lors d'un événement d'envergure internationale remonte à une époque qui est tellement lointaine que je vous demande de l'oublier puis de ne pas en tenir compte. Mm-hmm. Mais en même temps, cette même époque-là, là, c'est important, je viens de la région. Mais là, ça, c'est pas pareil. Le temps n'a rien effacé en ce qui concerne, je viens de là.
Pour me faire critique envers Éric Duhaime pour être quand même bon joueur, Éric Duhaime le savait, le passé de Boissonneau, il n'a pas appris ça dans les médias. Là. T'as déjà travaillé en politique, là. Il peut savoir ça.
C'est une information qui était connue dans les milieux médiatiques, notamment, mm-hmm. et dans les milieux journalistiques. Donc, c'est sûr que probablement, mais je ne peux pas présumer de ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, mais je peux dire qu'effectivement, il y a plusieurs collègues dans le milieu médiatique et politique qui m'ont dit... C'était... Moi, je l'ai réellement appris mm-hmm. dans les médias. Puis, quand j'en ai parlé avec des collègues qui travaillent dans le milieu journalistique et médiatique, ils m'ont dit, ben non, mais c'était connu, ça.
Ben
là,
oui.
Tout le monde savait ça.
Et Radio-Canada a fermé les yeux là-dessus aussi.
Oui, ben oui.
C'est ça.
Mais on connaît les racines gauchistes de Radio-Canada.
Exactement.
Là.
Mathieu, je pense que tu nous as gardé le meilleur extrait pour la fin parce qu'Éric Duhaime parle de l'importance de l'élection. Et là, enfin, on va se décoller le nez de la vitrine de la chicane Boissonneau-Duhaime puis on va regarder ça du côté de la CAQ, c'est bien ça?
Oui, parce que c'est vraiment ça qui prend toute l'attention. Mais là, on nous explique un peu, parce qu'on parle énormément de cette partielle-là, mais c'est parce qu'il y a des points très importants du côté de cette partielle présentement dans Arthabasca, et Éric Duhaime nous les explique très bien.
En 2018, ici dans Arthabasca, ça a été à plusieurs égards le comté le plus caquiste des caquistes. C'était la forteresse des forteresses, et aujourd'hui, on leur prédit des poussières. Si ça arrive, est-ce que ça voudra dire que c'est la fin de François Legault, que les carottes sont cuites? Plusieurs le pensent. Puis pour nous autres aussi, c'est une élection qui a une importance. Ça pourrait signifier que la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec permettrait enfin à 530 000 personnes d'avoir un député à l'Assemblée nationale. Et pour le Parti québécois, ça pourrait être le début de la balloune qui dégonfle. Enfin, on sait que le PQ a vu sa balloune gonfler au lendemain des élections avec le serment au roi. Et est-ce que puis il y a eu deux élections partielles par la suite, est-ce qu'ils vont frapper le mur d'Arthabasca? C'est à partir de maintenant que PSPP va se mettre à piquer du nez ça aussi, c'est possible. Donc, il y a un gros message qui peut être envoyé, pas juste dans le comté, mais à grandeur du Québec.
Arthabasca, c'est vraiment entre Drummondville et Lévis. Là. C'est le point centre.
Est-ce que c'est la fin de François Legault s'il perd? Comme ça a été la fin de Justin Trudeau quand il a perdu dans Saint-Paul, là, où c'est arrivé très rapidement là, les contestations au sein de son parti?
Je trouve ça impertinent de se prononcer là-dessus parce que on le sait que la CAQ remportera pas ce comté-là. On le sait.
C'est clair.
La lutte est entre le PQ et le Parti conservateur. Donc, de mêler la discussion de la CAQ à ça et de lier la perte ou la fin de François Legault. La fin de François Legault, elle s'observe déjà. Le déclin de François Legault s'observe déjà.
C'est à savoir si lui veut rester dans ce déclin-là ou non.
Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec Arthabasca.
Ouais,
Arthabasca a tout à voir entre le PQ et le Parti conservateur. Mm-hmm. La CAQ a mis un candidat.
Entre l'arrivée, justement, à l'Assemblée nationale du Parti conservateur. Ouais. Et justement, ça leur permettrait d'avoir un vent d'eau pour les prochaines élections, notamment ici dans la région de Québec. Et à savoir si le PQ, justement, continue sa domination des deux dernières années. Parce qu'on va le dire, c'est ça. Dans les sondages, ils dominent. Dans les élections partielles, ils ont dominé.
Ouais.
Donc, c'est à savoir ça. Mathias, circulation?
Oui, juste vous dire que présentement, Capitale direction ouest, entre Henri Bourassa et Boulevard Saint-Jacques, c'est très difficile, un gros ralentissement à prévoir.
Never Too Late, Three Days Grace, une de mes chansons préférées. Pensez pour tous ceux à l'heure actuelle qui vivent des moments difficiles. Accrochez-vous, lâchez pas. Le soleil est toujours au bout.